Marcos, une émission proposée par Michel Niaille.
Chers amis, bonjour. Nous voici réunis pour la dernière émission de cette série sur la laïcité. Et je termine sur une question qui est compliquée, d'une certaine manière mal connue, et qui est l'Europe et la laïcité. En effet, nous sommes les champions de la laïcité, du moins les Français le croient-ils, et nous pensons qu'en dehors de la France, il n'y a pas de pays véritablement laïque. Il vaut la peine d'y aller voir de plus près, notamment dans les pays qui nous sont les plus proches, à la fois géographiquement et culturellement, et qui sont les pays de l'Union européenne. Je me limiterai évidemment aux États de l'Union européenne, aux 27 États aujourd'hui. Je ne parlerai pas, évidemment, de la grande vague de sécularisation qui a atteint tout notre continent et depuis à peu près un siècle, et qui fait que la pratique religieuse, quoi qu'on en veuille, est de moins en moins développée dans nos différents États. Donc, il ne faut pas continuer à parler de l'Europe chrétienne, des racines chrétiennes de l'Europe, comme si rien n'avait changé depuis le Moyen-Âge. Il faut savoir que ce qui est le plus commun aujourd'hui en Europe, c'est l'absence de croyance ou, en tout cas, l'absence de pratique. Et puis, je voudrais soulever une deuxième interrogation pour l'écarter, c'est que, au fond, l'Europe devrait, en matière de laïcité, généraliser d'une certaine manière le modèle français, parce que c'est le seul modèle applicable réellement et sérieusement. Les Français ont toujours une tendance au cocorico, et là, c'est faire œuvre, en tout cas témoignage d'une absence de connaissance de ce qu'est l'Europe. Je vais essayer de vous le montrer, elle n'a pas de compétences pour décider d'étendre la laïcité de tel ou tel modèle à l'ensemble des 27 États, mais elle a cependant son rôle à jouer dans ce domaine-là. Alors, pour expliciter maintenant ce qui va nous réunir ce matin, je vais d'abord, dans un premier temps, ce qui ne vous surprendra pas, vous montrer la multiplicité, la diversité des systèmes religieux en Europe qui explique la complexité du système. Et rappelez qu'il n'y a pas un modèle de relation entre les églises et l'État, ni le modèle français, ni quelque autre modèle que ce soit. Il y a plusieurs modèles et vous allez voir, certains ne sont pas compatibles entre eux. Il faut partir de cette réalité. Mais l'Europe ne s'en tient pas pour autant dans la position de l'absence. Elle tente par divers moyens d'unifier autant que faire se peut le droit européen sur cette question de l'expression religieuse. Donc nous avons, je dirais, le balancement entre deux réalités. La réalité d'une diversité des systèmes politico-religieux en Europe et l'autre réalité, la tentative depuis de longues années, de construire un minimum de systèmes applicables à l'ensemble des États européens en matière religieuse. Alors d'abord, voyons la diversité des systèmes, cela ne vous surprendra pas. Évidemment, entre le Danemark et le Portugal, l'Italie et l'Irlande, autrefois la Grande-Bretagne, aujourd'hui elle n'est plus dans le giron européen, et la Tchéquie, vous comprenez qu'il y a à la fois des modes de peuplement, des modes d'organisation, des cultures tout à fait différentes. Et il n'est donc pas étonnant qu'il y ait un système très différent de la présence du religieux dans nos différents États. Je peux distinguer, si vous voulez, trois types de situations qui, d'une certaine manière, structurent l'espace européen. Le premier type de situation, c'est ce que j'appellerais le système des églises établies. Et je prends volontairement ce mot qu'on peut emprunter à l'anglais « established church », c'est-à-dire l'église officielle. Ces églises établies ont derrière elles une histoire très variée d'ailleurs, hein, mais ces églises établies ont en commun cette idée que le religieux est un des domaines d'exercice du pouvoir de l'État, est un des domaines dans lesquels l'État légifère, réglemente, donc le religieux fait partie de la compétence de l'État. Alors, Parlons du premier État qui n'est plus aujourd'hui dans l'orbite de l'Union, c'est la Grande-Bretagne. Nous avons, nous le savons, une église officielle qui est l'église anglicane depuis le coup de maître de Henri VIII décidant de faire de l'église catholique une église catholique nationale. Et c'est sa fille, Élisabeth Ier, qui transformera cette église catholique nationale en église protestante, mais avec un cérémonial qui garde certains fastes de l'église romaine et qui s'appellera donc l'église anglicane, l'église des Anglais. Il faut savoir que cette église anglicane est une église officielle. Elle a une représentation en tant que telle au Parlement. Il y a à la Chambre des Lords des évêques lords qui siègent, ils sont 7 ou 8, qui siègent au nom de cet établissement de l'église et qui participent donc au pouvoir législatif. Mais plus que cela, le Parlement, comme depuis Henri VIII et surtout Élisabeth Ière, reste compétent en matière d'organisation de l'Église. Ça peut nous paraître curieux, mais pour vous donner un exemple, c'est le Parlement qui a décidé que désormais les femmes pouvaient être pasteurs. Donc c'est de la compétence du Parlement d'entrer même dans, j'allais dire, presque le détail de l'organisation de l'Église. Et le « prayer book », c'est-à-dire le livre de prière qu'on utilise tous les dimanches matins, il a été voté et amendé par le Parlement. Il y a donc une présence officielle et dans toutes les grandes cérémonies, on voit qu'à côté de la reine, il y a toujours ou l'archevêque de Canterbury ou un prélat, on pourrait dire, de l'Église anglicane qui, ex officio, est présent et représente l'Église de la reine et l'Église de l'État. Je rappelle que d'ailleurs, la reine n'est pas le chef de l'Église, contrairement à ce que l'on dit, elle est le protecteur de l'Église. Ceci étant, et ça peut vous surprendre, l'Église anglicane ne reçoit pas un sou, une livre du gouvernement. Il n'y a aucune subvention. L'Église anglicane est riche, elle vit de ses propriétés, elle vit des dons des fidèles, elle n'est pas subventionnée par l'État. À côté de l'Église anglicane, il y a une pluralité d'églises, notamment d'églises protestantes, des églises calvinistes, notamment dans l'Écosse, et il y a évidemment l'Église catholique de nombreuses dénominations et des courants religieux différents, l'islam, le judaïsme, etc. Et l'Angleterre représente un pays de pacification, on pourrait dire, religieuse depuis au moins 2 siècles, avec une culture, on pourrait dire, de l'altérité. Au fond, être un peu différent, ce n'est jamais mal vu en Angleterre, porter un turban et pas un chapeau, porter un voile, faire un certain nombre de gestes, ça fait partie d'une culture, je dirais, multidirectionnelle, qui est propre à la culture anglaise, à l'opposé de la culture française qui est très centrée sur un modèle qui se veut unique de citoyenneté. Mais à côté de la Grande-Bretagne, alors des États qui appartiennent à l'Union européenne, en premier le Danemark, on oublie que le Danemark est un pays dont le protestantisme luthérien est la religion d'État. Et comme telle, non simplement cette religion est officielle, mais les pasteurs et les évêques luthériens sont des fonctionnaires payés par l'État. Les actes que peut prononcer cette église sont des actes officiels, mariage ou baptême, à la place de l'État civil. Et je rappelle que le roi ne peut monter sur le trône que s'il jure qu'il est protestant luthérien, et notamment qu'il ne croit pas à la transsubstantiation qui avait été la vieille querelle de Luther contre l'Église catholique. Là aussi, cette Église danoise n'est pas financée, excepté le paiement quand même des pasteurs et des évêques, n'est pas financée pour ses activités par l'État. Je rappelle que l'autre État qui est le plus proche, il suffit de quelques demi-heures en bateau pour passer de l'autre côté, la Suède, connaissait exactement le même régime, mais que depuis l'année 2000, l'Église luthérienne nationale n'est plus une Église officielle payée par l'État. Et donc, il y a eu une sorte de désengagement de l'État suédois à l'égard de cette autorité qui subsiste au Danemark d'Église officielle. Un autre exemple d'église d'État, c'est l'église orthodoxe en Grèce, qui fait partie, j'allais dire, des meubles de la culture grecque. Cette église qui est très largement soumise en général aux autorités politiques, ça c'est la vieille tradition que l'église orthodoxe ne fait pas de politique, mais elle s'est rappelée de temps en temps à l'État ses obligations. C'est une église qui est assez riche, qui ne paie pas d'impôts, dont les actes de mariage ou de baptême valent acte d'État civil, qui est présente dans toutes les cérémonies, et je rappelle que la Constitution prévoit que tout changement dans la traduction de la Bible doit être accepté évidemment par l'Église orthodoxe et voté par le Parlement. De sorte que ce monopole que détient l'Église orthodoxe pèse d'un assez grand poids dans la société, au point que les églises dissidentes, on pourrait dire, que sont l'Église catholique et les églises protestantes, voire d'autres mouvements, je pense aux témoins de Jéhovah, sans être persécutés, sont quand même très mis de côté et, je dirais, font l'objet d'une sorte de tolérance. Et ça pose, je le verrai à la fin, des problèmes du point de vue européen d'application du droit, de faire respecter notamment le droit à la liberté de chacun de croire ce qu'il veut, même s'il y a une église d'État. Donc, voilà le premier système. J'ajoute enfin un système qu'on ne connaît pas bien, parce que c'est une toute petite île, c'est l'île de Malte, où le catholicisme est religion d'État. Donc, vous voyez, des restes assez minoritaires, mais enfin importants, intéressants, où l'Église occupe là une fonction centrale dans l'organisation du croire dans la société. Alors, deuxième groupe, nous avons les églises qui sont liées à l'État. C'est le groupe le plus important, avec notamment le système de ce qu'on pourrait appeler les cultes reconnus. Alors, il n'y a pas d'église d'État au sens où je viens d'en parler, mais il y a plusieurs églises officielles qui émargent sur les deniers publics. Le premier exemple, c'est l'Allemagne. Vous savez peut-être que en 1945, l'Allemagne a fait acte de repentance pour les souffrances qu'elle a imposées et les églises, notamment l'église protestante, a fait un acte de contrition en demandant pardon au monde d'avoir laissé faire le régime nazi. Cependant, les Allemands sont très attachés à leur tradition religieuse. Vous savez que depuis la diète de Worms, il y a un partage, depuis le XVIe siècle, gouverné par Charles Quint, il y a un partage entre les différents États qui composent l'Allemagne, qui n'est pas un État unifié, c'est un État fédéral, et les États se sont découpés en fonction des croyances religieuses. Il y a des États protestants, il y a des États catholiques, la Bavière, par exemple, c'est tout à fait catholique, mais le Brandebourg, c'est un vieil État, ou la Prusse, un vieil État protestant, et donc et calviniste. Et puis aussi des États luthériens en assez grand nombre. Donc, nous avons une mosaïque de systèmes, lande par lande, mais dans tous ces landers, les églises protestantes et l'église catholique constituent des institutions publiques. C'est-à-dire que sont récoltés dans chacun de ces États ce qu'on appelle un impôt de religion, qui est sur votre feuille de déclaration des revenus, et qui fait que les églises catholiques ou protestantes en Allemagne sont très riches. D'ailleurs, si vous allez faire une promenade en Allemagne et que vous alliez dans des temples, vous allez voir, ils sont peints, repeints, dorés sur tranches, parfaitement en ordre, bien cirés. Enfin, bon, c'est ce qu'on ne voit pas dans d'autres pays, je n'en dis pas plus. Mais la Constitution, évidemment, de la République fédérale reconnaît pourtant en même temps la liberté religieuse, indépendamment du fait que les deux grandes églises catholiques et luthériennes sont des églises d'État qui bénéficient d'un régime particulier depuis la loi fondamentale de 1949. Ce système d'églises reconnues et bénéficiaires de certains avantages, sans être des églises d'État, on le retrouve finalement en Pologne, qui pourtant affirme la laïcité, mais l'Église catholique jouit là, grâce à un concordat avec la papauté, d'une situation tout à fait favorable. Mais c'est également le cas de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, trois États de l'Europe du Sud qui s'affirment laïcs et qui pourtant ont tous conclu un concordat avec l'Église catholique qui a une position de primauté, longtemps en Espagne, la seule Église existant, mais également au Portugal, qui a pourtant une vieille tradition depuis le XVIIIe siècle de libéralisme intellectuel. On avait même chassé les jésuites et il y a eu des mouvements très anti-catholiques. Il faut dire que l'Inquisition avait beaucoup sévi. Et puis de l'Italie, on allait dire, c'est quand même là où le pape réside, qui a une vieille tradition qui a été consacrée sous Mussolini, donc assez tardivement, par un concordat et la création de l'État du Vatican, qui est un petit territoire d'exception sur le territoire italien. C'est la même chose également en Irlande, où théoriquement il y a aussi un État laïque avec séparation, mais les églises, et notamment l'Église catholique, y jouit d'une particularité de soin de la part de l'État. Déjà, la Constitution rappelle les origines chrétiennes de l'État irlandais. Le catholicisme y gère beaucoup d'institutions de soins ou d'enseignements, de sorte qu'on est dans un système de culte reconnu qui pèse lourdement quand même sur les pratiques habituelles dans ce pays. Mais je pourrais multiplier les exemples. Par exemple, le cas, je l'ai dit tout à l'heure, de la Suède, qui a été longtemps un État comme le Danemark aujourd'hui, où le protestantisme luthérien est la religion reconnue de l'État. Mais depuis l'année 2000, l'Église luthérienne est séparée de l'État, donc ils ont fait œuvre de laïcité. Elle n'est plus une Église d'État, elle est une Église nationale, c'est-à-dire elle représente 80% des Suédois. Mais il faut dire que quand on fait des enquêtes, le nombre de gens qui déclarent ne pas croire est quand même très largement supérieur à 70%. Donc, le statut juridique d'une église est en effet un statut qui ne nous dit pas tout de la réalité de la vie de ces pays. Et puis, il faudrait rajouter, pour terminer, dans ces églises reconnus, en tout cas avec une situation très favorable, les pays orthodoxes, je pense notamment la Roumanie, la Bulgarie, par exemple, ou des pays où se mélangent l'orthodoxie et le christianisme latin, comme la Tchéquie en partie, où l'orthodoxie, comme c'est le cas dans les grands pays comme la Russie, jouit d'une situation particulière. C'est pas comme la Grèce, une église d'État, mais réalise une sorte, ce qu'on appelle la symbiose d'unité entre le corps social et la croyance, qui fait qu'elle a un régime à part et qu'elle bénéficie de certaines largesses de la part de l'État. Et enfin, troisième et dernier groupe, les États dits laïcs, au sens où nous l'entendons nous, qui sont ultra-minoritaires, en premier la France, on en a parlé pendant toutes ces émissions, qui depuis 1905 organise un régime de séparation, qui est moins strict qu'on ne le dit, mais qui est quand même, par rapport aux autres pays européens, un modèle de séparation, puisque aucune subvention, aucune faveur publique n'est accordée aux églises en général, même à l'église majoritaire qui est l'église catholique, même s'il y a des arrangements, on le voit bien aujourd'hui, pour la construction des lieux de culte, pour les pratiques religieuses à certains moments, pour les repas dans les cantines collectives, etc., mais on ne peut pas dire qu'il y a reconnaissance, c'est même interdit par la loi, et qu'il n'y a en effet aucune subvention. Avec la France, on pourrait mettre la Belgique et la Hollande. Alors la Hollande, c'est un vieux pays de tradition libérale en matière religieuse depuis le XVIIe siècle, qui a accueilli notamment tous les dissidents protestants, et Dieu sait s'il y en avait, de toutes les catégories. Et tous les cultes au XVIIe siècle étaient présents dans la Hollande, même le catholicisme, à condition qu'il soit discret, et toutes les dénominations protestantes jusqu'aux anabaptistes, en passant par les groupes les plus curieux. Bon, eh bien, les Pays-Bas et la Belgique ont un système, on dit, de pilarisation, c'est-à-dire que la société est appuyée sur des piliers, chaque pilier représentant une confession, on pourrait dire. Et donc, vous appartenez à un pilier catholique, protestant, luthérien, anglican, et puis même vous pouvez appartenir à un pilier juif, voire témoin de Jéhovah, et il y a même un pilier est laïque, c'est-à-dire les francs-maçons constituent une sorte d'église laïque reconnue par l'État, et chaque pilier gère ses adhérents. Et donc, à partir de votre naissance, vous appartenez à un pilier, et chaque pilier développe ses crèches, ses hôpitaux, ses écoles librement, sous l'égide de l'État qui essaie de donner à chacun sa liberté d'exercice. C'est un système très curieux, où on ne peut pas dire qu'il y ait reconnaissance des religions, mais il y a prise en compte du fait qu'il y a plusieurs religions présentes sur le sol. On pourrait mettre là l'Estonie et la Slovénie, donc ces pays de l'Est, hein, de notre Europe, de l'Union européenne, qui aussi, d'une certaine manière, reconnaissent, entre guillemets, l'existence de certaines confessions et leur accordent le bénéfice de certains avantages. Vous voyez donc, pour conclure sur ce premier point, diversité des systèmes. Il n'y a pas de système unique, il n'y a pas de système majoritaire. Chaque pays, suivant son histoire, a construit des rapports entre la religion et l'État très différents. Alors, venons-en maintenant au deuxième point de mon interrogation. C'est la tentative, cependant, de l'Union européenne, non pas d'unifier, mais de permettre qu'il y ait entre tous ces États des points communs dans la défense de la liberté de croire ou de ne pas croire. Et donc, défense de ce que j'appellerais, moi, une laïcité européenne. Alors évidemment, cette laïcité européenne, elle ne ressemble pas à la laïcité à la française. Et les Français peuvent, à bon droit, mais en général parce qu'ils ignorent tout, dire que c'est bien dommage que l'Europe n'est pas laïque sur le modèle français. Mais elle est laïque pour la plupart des Européens, au sens où elle reconnaît la liberté de conscience et la liberté de culte sans entrave de la part de l'État. Au fond, l'Europe applique cet article premier de notre loi de 1905. L'Europe reconnaît la liberté de conscience, elle assure la liberté de culte sous la seule réserve de l'ordre public. Cet article premier de notre loi, il est en effet, d'une certaine manière, appliqué par la législation européenne. Alors, d'abord, l'Europe ne s'immisce pas dans l'organisation des églises. Et ceci depuis un avenant, si j'ose dire, au traité d'Amsterdam, qui est ancien, mais qui, cet avenant, a été intégré désormais dans le traité européen et notamment est devenu l'article 17 de la Convention européenne, la dernière en l'état, signée à Lisbonne en 2007. Et donc, il est clair que cet article dit « L'Europe n'a aucune compétence en matière religieuse. La matière religieuse est l'affaire des États. » C'est au nom de ce que l'on appelle en droit européen le principe de subsidiarité. Ce que les États font pour eux-mêmes à la base ne nécessite pas que l'Europe le refasse ou fasse autre chose. Autrement dit, laissons à chaque niveau la responsabilité de gestion d'un certain nombre de questions. Et donc, la religion, le problème religieux n'est pas une compétence de l'État, des institutions européennes. C'est très important parce que cela veut dire que l'Europe respecte les divers systèmes, de l'Irlande à la Grèce, du Portugal à la Slovénie, de l'Estonie à Malte. Chacun garde le système qu'il a. Entre nous, évidemment, ce principe de subsidiarité, il était presque évident. Comment voulez-vous imaginer qu'on allait imposer un système unique? Sur quelle base l'aurait-on pris? Finalement, le système qui aurait été le plus universalisable, c'était le système à la fois allemand ou éventuellement hollandais, c'est-à-dire reconnaître des églises et les doter d'un certain nombre d'avantages. Oui, mais alors la France aurait sauté au plafond, les Grecs auraient dit « Ah ben non, il n'y a qu'une seule église ». Enfin, c'était mettre l'embrouille là où il n'est pas nécessaire de la mettre. Donc, le droit européen part de cette idée que la gestion des églises, donc de la foi, appartient à chaque État. Donc, l'article 1er de notre loi 1905 est largement rempli et respecté par les 27 États de l'Union européenne. En revanche, le deuxième article de notre loi, qui est la séparation, pas de reconnaissance, pas de subvention, pas de salariat, là, il n'est pas applicable. Suivant les États, en fonction de leur histoire, on peut subventionner les églises, on peut salarier les prêtres et les pasteurs, on peut donner une place importante à la foi et à l'église dans l'organisation de l'État, et c'est bien ce qui fait la différence entre la laïcité à la française et ce que j'appelle la laïcité européenne, qui s'arrête à la simple défense de la liberté d'expression. Alors, pour vous donner quand même quelques exemples, il faut savoir que le texte dans la Constitution européenne, si je peux l'appeler ainsi, c'est-à-dire le traité de Lisbonne, le texte se réduit à l'article 17, hein, qui est vraiment très rapide, qui dit l'Europe n'est pas compétente en matière religieuse. Cependant, elle entretient des liens avec les différentes confessions. Au-delà de cela, il faut savoir que la seule instance qui peut traiter des problèmes lorsqu'ils surgissent au nom de la liberté de conscience, c'est l'instance juridictionnelle. Or, il faut savoir que l'Europe, de l'Union européenne, avait créé une juridiction, qui est la juridiction de Luxembourg, la Cour de Luxembourg, qui est la Cour de l'Union européenne, mais que depuis le traité de Lisbonne, on a intégré dans les institutions européennes une autre cour que vous connaissez, qui est la Cour de Strasbourg, qui est la Cour de la Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH. Qui, depuis 1950, a largement statué sur la liberté d'expression religieuse et la liberté d'exercer selon sa conscience, sa foi, ou au contraire, de ne pas exercer de religion. Eh bien, désormais, ces deux cours de Strasbourg et de Luxembourg, la Cour de Strasbourg sur la base de la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour de Luxembourg sur la base des institutions de l'Union européenne, régissent les problèmes quand ils se présentent de non-respect par les différents États de la liberté, ce fameux article 1 pour moi, de la liberté de conscience et de la liberté de culte. Et si j'ose dire, Dieu sait s'il y a du travail à faire. Parce que les traditions nationales et les traditions politiques des différents États, je pense notamment les États de l'Est, hein, par exemple, sont tellement différentes des traditions libérales, disons, de l'Europe de l'Ouest, que les autorités juridictionnelles ont fort à faire souvent pour rappeler aux États leurs devoirs en matière de respect de la liberté de conscience, donc aussi bien pour ceux qui croient que pour ceux qui ne croient pas. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Un exemple très ancien, en 1993, c'est l'arrêt Kokkinakis, un arrêt de la Cour de Strasbourg qui, comme le nom du monsieur l'indique, concerne la Grèce. Grèce, je le rappelle, pays avec une religion d'État officielle, 90% des Grecs sont orthodoxes. Monsieur Kokkinakis, qui est pourtant grec, il a le malheur d'être témoin de Jéhovah. Et alors, quand il descend dans la rue, il essaie d'expliquer aux gens, leur distribuant des papiers, qu'il faut adhérer aux témoins de Jéhovah. Il est chaque fois arrêté en cabanée. Au bout de 10 fois, il n'en peut plus et il fait un recours d'abord dans son propre pays jusqu'à la Cour de cassation et puis il va devant la Cour de Strasbourg. Et là, la Cour de Strasbourg doit trancher. Monsieur Kokkinakis, qui est grec, mais qui n'est pas orthodoxe, en tout cas qui ne veut pas être orthodoxe, a-t-il le droit ou non, dans un pays où il y a une religion d'État, de développer une théologie et une foi qui n'a rien à voir avec l'orthodoxie? Et là, c'est d'autant plus cocasse que M. Kokkinakis et sa femme étaient allés chez la voisine, ils étaient allés dans la cuisine et ils essayaient de lui expliquer que le témoin de Jéhovah, c'était très bien, mais la Grèce est un pays chaud, la fenêtre était ouverte et les passants ont entendu M. Kokkinakis et Mme Kokkinakis en train d'essayer de convaincre la voisine de devenir témoin de Jéhovah. Ils ont porté plainte et c'est comme ça que ça a démarré. Et dès lors, la Cour de Strasbourg s'est demandé, mais moi je dois défendre la liberté de croyance, la liberté de choisir sa foi, qu'est-ce que je peux faire dans un État où il y a une religion d'État? Eh bien, la Cour de Strasbourg a dit, c'est pas parce qu'il y a une religion d'État qu'il n'y a pas liberté de conscience et liberté de pratique. Et donc, M. Kokkinakis gagne son procès avec une somme d'argent conséquente à laquelle est condamné l'État grec pour non-respect de la Charte des libertés qui inaugure, si j'ose dire, les institutions européennes en disant la liberté de conscience et les libertés de pratique religieuse sont une des libertés fondamentales de l'Europe. Voilà un premier exemple. Un deuxième exemple qui est plus ancien, des années 70 en Angleterre, à l'époque où l'Angleterre appartenait à l'Union européenne, mais depuis elle appartient quand même aussi à la Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'arrêt Handyside. Monsieur Handyside est un enseignant dans une école anglaise et il a fait un petit bouquin pour expliquer aux jeunes notamment comment il fallait se détacher de la morale traditionnelle et notamment religieuse. Scandale, il est traduit devant les cours de justice anglaises d'abord, il perd ses procès et il est condamné et il va devant la cour de Strasbourg pour demander évidemment qu'on lui fasse droit en disant mais j'ai le droit de m'exprimer même si j'ai sur la religion des positions, j'allais dire peu orthodoxes. Et là aussi, M. Handyside, il gagne qu'à moitié parce qu'on estime que quand même il aurait dû être plus prudent parce que son livre s'adressait à des adolescents et que donc quand même il faut comprendre qu'ils ne sont peut-être pas en mesure de tout comprendre, mais la liberté d'expression est cependant reconnue. Et puis enfin, cerise sur le gâteau, on a la jurisprudence à Strasbourg sur, dont tout le monde a entendu parler, sur les caricatures de Mahomet, qui confirme la position française, disant que, en tout cas en France, il n'y a pas de délit de blasphème, qui continue à exister même s'il n'est pas pratiqué en Angleterre, par exemple, ou dans certains autres États, mais en général, l'Église catholique ne pousse pas l'application de ce droit qu'auraient les catholiques de résister à des caricatures ou à ce qu'on appelle des blasphèmes. Et donc là encore, la Cour de Strasbourg a dit que la liberté d'expression, notamment des journalistes, de se moquer d'une religion, faisait partie du vieux stock, j'allais dire, des libertés de notre continent et a donné raison à ceux qui ont fait les caricatures. Et il y a une phrase très intéressante qui dit « Les églises doivent savoir que la critique fait partie de nos traditions et qu'elles doivent se soumettre à l'idée qu'elles peuvent être critiquées. » Et ça, c'est très important parce que ça veut dire « Oh, c'est pas d'une main tremblante qu'on accorde le droit. » Non, la critique est un élément central, on pourrait dire, de la culture de la société européenne. Alors, il y a des cas, évidemment, où les problèmes sont plus aigus. Je pense, par exemple, le port du foulard. Alors, tout le monde sait que ça anime beaucoup de conversations. Alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a eu un arrêt de la Cour de Strasbourg. Alors, ce n'est pas au nom de l'Europe, hein, vous allez comprendre pourquoi, mais au nom de la Convention européenne des droits de l'homme, qui, là, ne recrute pas que les 27 États de notre Union, mais 48 États, hein, y compris la Turquie. Et justement, à l'occasion d'une décision qui concerne la Turquie. Eh bien, c'est très intéressant parce que vous savez que la Turquie se veut moins aujourd'hui avec Erdogan, mais enfin, se veut être un pays laïque depuis Atatürk, et donc le foulard est interdit à l'université. Et ce qui n'est pas le cas en France. Le foulard est interdit, donc on a une jeune turque qui fait un procès d'abord dans son pays et qui le perd, et qui va devant la cour de Strasbourg pour dire « mais pourquoi j'ai pas le droit de porter le foulard dans l'université, je suis musulmane ». Et la cour de Strasbourg, je répète, c'est pas la cour au nom de l'Union européenne à ce moment-là, la cour de Strasbourg au nom de l'Union des 48 États du Conseil de l'Europe, lui dit « écoutez, premièrement, vous avez d'autres endroits où vous pouvez faire des études supérieures, intérieur en portant le voile. Donc, ça veut dire des établissements privés. Et d'ailleurs, cette jeune fille va faire ses études en Suisse. Ça ne s'invente pas. Bon. Mais au nom de la laïcité, l'État turc a tout à fait le droit, pour des raisons d'intégration et d'unité du pays, d'exiger que les gens soient neutres à l'université. Donc, une règle ici plus sévère que celle qui s'applique en France au nom de la laïcité, ici, de l'État turc. Bon. On peut en discuter parce qu'aujourd'hui, la laïcité de l'État turc, elle est très malmenée par un retour avec Erdogan à la vieille tradition ottomane. Et finalement, le président Erdogan apparaît presque comme, non pas Atatürk, ce qui serait très bien, mais comme le descendant de Soliman le Magnifique. Un autre arrêt, alors là, qui nous intéresse, qui a été décidé par à nouveau la Cour de Strasbourg, et là c'est dans le cadre de l'Union européenne, c'est un arrêt sur l'interdiction du foulard intégral, ce qu'on appelait la burqa. Vous savez qu'en France, depuis l'année 2010, la dissimulation du visage, et ce n'est pas une question de laïcité, mais d'ordre public, est interdite. Vous n'avez pas le droit de sortir dans la rue complètement caché. De la même façon que, symétriquement, vous n'avez pas le droit de sortir complètement nu. Donc, ni nu, ni tout caché. Entre les deux, vous mettez ce que vous voulez. Et donc, une dame qui porte la burqa fait un procès en disant « Mais moi, j'ai envie de porter la burqa. » Et elle est assez finaude, elle a dû être bien conseillée par ses avocats qui étaient anglais d'ailleurs, en disant « Mais je ne suis pas imbécile, je ne suis pas étroite d'esprit. Il y a des jours où j'ai envie de porter la burqa, des jours où je ne la porte pas, et donc je veux bénéficier de cette liberté. » Et là, ça a été difficile parce que la réponse de la France devant la juridiction, c'était de dire « Mais l'interdiction de la dissimulation de visage, c'est une tradition en Europe. On a toujours vécu à visage découvert. » Et d'ailleurs, dans tous les pays européens, on vit à visage découvert. Les juges de Strasbourg ont fait le décompte des 27 États et ont dit « C'est curieux, il n'y a que deux États qui ont fait une loi contre la burqa, la France et la Belgique. Tous les autres n'ont jamais légiféré sur la question et on peut porter la burqa au Danemark, en Suède, en Espagne et en Italie. » Donc, ce n'est pas un argument très fort. Heureusement, il restait dans la manche l'argument qu'a sorti le gouvernement français, mais nous, notre considération française du vivre ensemble suppose le visage découvert. Et là, un argument de ce type, qui est politique, fait que la Cour de Strasbourg dit là-dessus, moi, je ne peux pas donner d'avis, ça échappe au territoire, disons, de ma compétence. Si c'est une tradition française, je suis obligé de la respecter. Et voilà comment la loi de 2010 a été consacrée par la juridiction strasbourgeoise, donc au nom de l'Europe, et ne peut plus être attaqué désormais sous cet angle de l'absence de liberté. Alors, dernière chose, et je terminerai par là, c'est l'affaire du foulard dans les entreprises. Alors, il y a déjà eu des nombreuses juridictions françaises qui ont dû, dans le désordre souvent, se prononcer, et une affaire est allée devant la cour là, de Luxembourg, donc la cour vraiment de l'Union européenne, sur deux cas, un cas belge et un cas français, où le directeur d'entreprise a intimé l'ordre à une femme dans enlever le foulard en Belgique comme en France. Et alors là, je vous passe sur les détails parce que c'est très compliqué. La Cour de Luxembourg a eu un raisonnement extrêmement complexe parce qu'elle navigue entre la liberté individuelle qui doit être protégée, reconnue, et les nécessités de l'entreprise. Et donc, très grosso modo, il est dit le directeur de l'entreprise doit d'abord respecter la liberté de conscience de ses travailleurs. Autrement dit, pour prendre un slogan d'extrême gauche de 68, sous l'uniforme de travailleur, tu restes un citoyen. Donc, partout où tu as le droit d'exercer ta liberté de conscience et de manifestation du culte. La seule entrave serait l'ordre public qui serait éventuellement atteint. Donc, la Cour de Luxembourg rappelle cette liberté fondamentale et donc l'absence de discrimination, que, comme chaque fois, il s'agit du foulard. Mais deuxièmement, dit cependant, l'entreprise avec son chef peut avoir des raisons particulières, pas simplement des raisons liées à la protection de la santé. Par exemple, vous travaillez sur une machine-outil, le foulard peut être pris dans la machine-outil et vous avez un grave accident. Donc là, ça n'a rien à voir avec la religion, mais avec la protection de la santé. Mais le chef d'entreprise peut avoir des raisons objective de demander à ses salariés de ne pas porter un signe distinctif. Tout le problème de savoir où s'arrête la raison objective. Et par exemple, le directeur d'entreprise, qui avait été le cas de l'entreprise belge, ne peut pas dire « Ah ben mes clients m'ont dit qu'ils n'aimaient pas avoir une femme voilée ». Eh ben la Cour dit « Ça, ce n'est pas une raison suffisante. La sensibilité de vos clients n'est pas une norme juridique, il faut trouver plus que cela ». Et donc, il faut trouver des raisons objective pour que, quelquefois c'est la marque de l'entreprise, sa réputation, implique qu'il puisse y avoir une interdiction de porter un signe distinctif. Et à ce moment-là, tout signe distinctif, ce n'est pas donc un arrêt sur le voile, c'est sur le fait que tout signe religieux distinctif, une croix, une kippa, un turban sikh, seront éventuellement interdits dans l'entreprise. Donc, je conclue, vous le voyez, un système assez compliqué, mais qui est à la mesure de la complexité des problèmes que nous rencontrons, même si l'Europe n'est pas laïque au sens où nous l'entendons en France, puisqu'elle ne peut pas juger de la séparation, de la non-séparation des églises et de l'État. Elle est laïque au sens du premier article de notre loi de 1905. La liberté de conscience est reconnue, la liberté de pratique est absolument reconnue, sauf à ne pas troubler l'ordre public. Et au fond, pour le moment, c'est déjà beaucoup, entre 27 États dont les histoires et les exactions quelquefois en matière religieuse ont été terribles pendant des siècles et où petit à petit se constitue, non pas comme le croient un certain nombre de Français, la protection de la tradition chrétienne ou de l'Europe croyante depuis le Moyen-Âge, pas du tout, se constitue dans l'avenir, une Europe nouvelle où la liberté de conscience et de pratique du culte pourra être reconnue et satisfaite dans tous les pays. C'est donc un point de vue prospectif qui anime les magistrats qui ont à trancher sur les problèmes et non pas, contrairement à ce que croient les Français, le rappel de l'histoire séculaire du christianisme dans notre petit continent. Nous avons ainsi terminé cette série d'émissions. J'étais très heureux d'être avec vous, même si je ne vous vois pas, et c'est réciproque. Mais j'espère que cela a pu éclairer quelques-unes des chandelles de notre intérêt pour ce principe de laïcité qui doit nous permettre de rester toujours vigilants dans une situation toujours fragile en France. Je vous souhaite une bonne journée et à nous revoir peut-être. Au revoir.
Laïcos, une émission proposée par Michel Niaille.